Bonjour à tous et à chacun. Ce matin, nous allons aborder un chapitre de l'histoire de l'Ancien Testament, de l'histoire du peuple d'Israël, et quelques mots simplement pour le situer. Nous allons aborder un épisode qui se passe au moment où le peuple s'est divisé en deux parties. Il y a le peuple d'Israël au nord, avec capitale Samarie, et le peuple de Juda au sud, avec capitale Jérusalem. Pour ce matin, je lirai abondamment les récits qui vont servir de base à notre méditation. La méditation elle-même sera assez brève et la lecture sera plus développée. Je commence donc à lire au chapitre 17 du premier livre des Rois. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galaad, vint dire au roi Achab: Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Après cela, l'Éternel dit à Élie: Quitte ce lieu, va vers l'est, et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Nous avons ici l'expression d'un châtiment de Dieu pour le peuple qui a abandonné son roi et son seigneur. Je reprends la lecture. Bien des jours, c'est au chapitre 18, bien des jours s'écoulèrent au cours de la troisième année de sécheresse. L'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes: Va trouver Achab et je ferai pleuvoir sur le pays. Le roi Achab est le roi d'Israël. C'est un des plus mauvais rois qui ont régné sur Israël. Il était marié à une femme qui s'appelle Jézabel, dont nous allons voir les exploits en suivant notre lecture. Élie partit, je reprends, afin de rencontrer Achab. Comme la famine s'était aggravée à Samarie, Achab avait convoqué Abdias, l'intendant de son palais. Celui-ci avait un grand respect pour l'Éternel. Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en deux groupes de 50 dans des grottes et en leur procurant à manger et à boire. Achab avait ordonné à Abdias: Va, parcours le pays à la recherche de toute source d'eau et de tout fond de torrent. Peut-être découvrirons-nous assez d'herbes pour maintenir en vie nos chevaux et nos mulets, sans être obligés d'abattre une partie de notre bétail. Ils se répartirent le pays à parcourir. Achab partit seul de son côté et Abdias prit une autre direction. Alors qu'Abdias était en chemin, Élie arriva à sa rencontre. Abdias le reconnut et s'inclina face contre terre devant lui en demandant: « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ?»« C'est moi-même, » répondit Élie. « Va dire à ton maître que j'arrive. Oh, répliqua Abdias, par quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre à mort par la main d'Akab? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je t'assure qu'il n'y a pas une nation ni un royaume où mon maître ne t'ait fait chercher, et quand les représentants de ce pays disaient que tu n'étais pas chez eux, ils les faisaient jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu me demandes d'aller annoncer à mon Seigneur que tu arrives. Mais à peine t'aurais-je quitté que l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Moi, j'irai t'annoncer à Akab, mais il ne te trouvera plus, et c'est moi qu'il tuera. Pourtant, rappelle-toi que ton serviteur est fidèle à l'Éternel depuis sa jeunesse. Mon Seigneur, n'as-tu pas appris ce que j'ai fait quand Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel? J'en ai caché 100 en 2 groupes de 50 dans des grottes et je leur ai fourni à manger et à boire. Et c'est moi que tu envoies maintenant à mon Seigneur pour lui annoncer que tu viens, mais il va me tuer. Élie lui dit, aussi vrai que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au service duquel je me tiens, est vivant, je t'assure que je me présenterai aujourd'hui devant Akab. Abdias courut donc rejoindre Akab et lui annonça la chose. Alors Akab vint à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il l'aperçut, il lui cria, « Te voilà, toi, qui sèmes le malheur en Israël !» Élie lui répondit, « Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux Baal. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Akéra, qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. » Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, « Combien de temps encore danserez-vous d'un côté et de l'autre? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit, « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer de feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. » Puis vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel, le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. » Tout le peuple répondit, « D'accord, c'est bien. » Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. » On leur donna le taureau, et ils le prirent et ils le préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal, du matin jusqu'à midi, en répétant, « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit, « Criez plus fort! Puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions, ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il. Et il faut le réveiller. » Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions dans la peau, à coups d'épée et de lance, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. L'heure de midi était passée, et ils furent encore en transe jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Alors Élie ordonna à tout le peuple, « Approchez-vous de moi, vous tous. » Tout le peuple s'avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré, « Tu t'appelleras Israël. » Il rebâtit avec ces pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de litres. Puis il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois et ordonna « Remplissez 4 cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. » On fit ainsi. « Faites-le encore une fois, ordonna-t-il. » Ils le firent. Une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit tout autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. » Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu ! C'est l'Éternel qui est Dieu !» Élie leur ordonna « Saisissez les prophètes de Baal et qu'aucun d'eux ne s'échappe. » Ils se saisirent d'eux, Élie les fit descendre dans le ravin du Kishon pour les y égorger. Nous reprenons la lecture un peu plus loin, au chapitre 19, à partir du premier verset. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé, et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange !» Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger, ou un murmure doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera par l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Jusqu'ici la lecture. Élie se trouve au lendemain d'une grande victoire. Hier, c'était une manifestation éclatante de la puissance de Dieu devant tout le peuple, devant Akkad et devant les prophètes de Baal. Le peuple a crié, « C'est l'Éternel qui est Dieu !»« C'est l'Éternel qui est Dieu !» Et Dieu a ramené la bénédiction de la pluie, selon sa parole. Aujourd'hui, le lendemain, rien n'a changé. Pas de retour durable d'Israël à Dieu. Pas de changement du cœur d'Akab. Le pouvoir de Jézabel est toujours aussi dominant et Akab est toujours aussi lâche. Et Élie se retrouve seul devant la haine de Jézabel. C'est le découragement et l'amertume qui s'emparent du cœur du prophète. Plus le triomphe a été glorieux, plus la déception est douloureuse. L'effort le plus puissant qu'un homme ait jamais fait pour rétablir l'honneur de son Dieu, l'une des manifestations les plus imposantes que la terre ait jamais contemplées du pouvoir divin, sont frappés de stérilité par l'ignoble lâcheté du roi et la stupide indifférence du peuple. Elle s'était sentie fort, Élie s'était senti fort en Dieu. Élie va faire l'expérience de sa propre faiblesse. Dieu a travaillé par lui, il va maintenant travailler sur lui. Élie s'enfuit au désert, poussé par son immense déception et par le sentiment de l'échec. Il a achevé une œuvre, mais elle paraît stérile. Élie fuit par rapport à tout ce qui vient de se passer. Et qu'est-ce qu'il y a devant lui? Point d'interrogation, plusieurs points d'interrogation. Il semble n'avoir pas d'autre but que de se retrouver loin, le plus loin possible de Jézabel. Où aller? Dieu laisse Élie partir sur son chemin. Je répète, Dieu laisse Élie partir sur son chemin. Mais Dieu va le rejoindre, orienter sa fuite et le conduire finalement vers un but, une rencontre plus proche d'Élie, avec lui-même et avec son Dieu. Dieu va le rejoindre et Dieu va lui donner le sens de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui va se passer devant lui. Dieu conduit Élie à une meilleure connaissance de lui-même et de son Dieu. Dieu conduit Élie à une meilleure connaissance de lui-même et de son Dieu. C'est l'étape du désert. La solitude, l'épuisement physique et moral. Il dort. Dieu vient vers Élie et lui parle. Mange, et puis dort. Récupère des forces, car la route est encore longue devant toi. Tu n'as pas fini ta mission. Il y a encore un chemin pour toi. Oui, il y a encore un chemin pour toi. Élie mange, dort, mange à nouveau, dort. Et avec la force qu'il a récupérée, il va pouvoir marcher 40 jours et faire au moins 400 kilomètres. Temps de méditation. Ce n'est plus l'errance. Ce n'est plus la fuite. C'est le chemin où Dieu l'accompagne. Alors nous trouvons à nouveau Élie dans la caverne. La caverne d'Horeb, c'est un autre mot pour le mont Sinaï. Et nous savons que c'est la montagne où Moïse a rencontré Dieu, où Dieu a rencontré Moïse et où la loi lui a été donnée. La révélation particulière de Dieu à Horeb. Et là, la révélation particulière à Élie. Dans la caverne, lieu protégé et protecteur au cœur des rochers. Ce n'est pas le désert, il est dans le cœur du rocher. Et la question de Dieu vient. Que fais-tu ici, Élie? C'est une question à laquelle Élie est appelé à répondre. C'est donc l'occasion, c'est un appel, c'est une ouverture. c'est l'invitation à réfléchir sur soi-même et sur ce qui l'a fait de venir ici. C'est une invitation à ouvrir son cœur et c'est l'occasion de s'exprimer librement devant Dieu, de verser dans le cœur de Dieu tout le découragement, toute l'amertume qu'il y a dans son cœur à lui, à Élie. Et nous voyons que Élie a une perception totalement négative, un sentiment complet d'échec. Et Élie, en disant deux fois la même chose à Dieu, met les choses au pire. Ils ont tué tes prophètes. Oui, mais c'est surtout Jézabel qui a fait ce crime. Abdias, nous avons lu son histoire, avait sauvé un grand nombre de prophètes, 100 prophètes en les cachant. Et Élie, ici, oublie complètement. Il avait été informé de cela. Le texte nous le dit explicitement. Mais il dit, je suis resté tout seul. Qu'il ignore l'existence des 7000, oui, mais qu'il oublie Abdias, il n'aurait pas dû. Je suis resté tout seul. C'est dans ce cadre, c'est dans ce contexte que Dieu se révèle particulièrement à Élie, comme il le fit jadis pour Moïse, peut-être au même endroit. Dans les deux cas, le serviteur ne peut pas contempler la face de Dieu. Dieu avait caché sa face à Moïse. Et là, Élie craint de voir la face de Dieu et il cache son visage avec son manteau. Mais il entend la voix de l'Éternel. Et c'est là l'essentiel. Élie entend, dans tous les sens du terme, il entend et il comprend la voix de l'Éternel. C'est ça qui est le plus important. La présence de Dieu. La présence de Dieu, depuis les manifestations de puissance jusqu'au murmure doux et léger. Dieu vient vers Élie. Et voici, dit le texte, l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y a des manifestations de force, de puissance et de jugement. Souvent, l'Éternel s'est manifesté ainsi, et jusque à ce récent épisode du Mont Carmel. Il y eut un vent fort et violent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Ces expressions de la grandeur, de la puissance, de la souveraineté, de la sainteté et de la justice de Dieu et de ses jugements se sont manifestées à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple. Et tout cela en préparation de la venue de son règne. Tous doivent connaître la grandeur, la majesté, la puissance, la sainteté et la justice de Dieu. Moïse, au Sinaï, a reçu la loi, et là, Dieu s'est manifesté au peuple dans les éclairs et le tonnerre, manifestation de sa puissance. Moïse était chargé de donner au peuple et de faire appliquer la loi de Dieu. Élie est chargé de manifester la sainteté de Dieu et sa puissance, de prononcer et d'exécuter des jugements sur un peuple rebelle et idolâtre. Élie a reçu de Dieu une lourde tâche, une lourde charge à porter, une lourde tâche à accomplir. À l'un et à l'autre de ses deux serviteurs, Moïse et Élie, Dieu accorde une révélation particulière. Dieu fait contempler une manifestation de son être qui surpassent toutes celles du moment présent et dont la pleine réalisation est réservée à l'avenir. Mais la venue du règne de Dieu, l'instauration de son royaume se fera d'une toute autre manière. Les trois phénomènes précurseurs peuvent signifier, le vent fort peut signifier l'invasion étrangère par Hazaël, roi de Syrie, le tremblement de terre peut signifier la révolution interne avec Jéhu, roi d'Israël, et le feu peut signifier la répréhension par les prophètes, comme Élie et Élisée. Ce sont les grands moyens employés par l'action éducative et préparatoire de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Dieu se fait connaître à Élie sous un autre aspect. Un murmure doux et léger, ou un son à peine perceptible, ou un son de silence, un doux silence. Il y a plusieurs façons de traduire cette expression, d'une douceur tranquille. Mais c'est un son que l'on ne perçoit bien qu'en l'absence de tout autre bruit. Un son que l'on ne perçoit bien qu'en l'absence de tout autre bruit. Dieu, c'est le tout proche par cette présence qui se révèle tout doucement dans l'intimité de la solitude. C'est la révélation de Dieu à Élie. C'est la manifestation du Saint des Saints, mais du Dieu de miséricorde, du Dieu tout proche qui parle au cœur. On ne parle pas d'amour au cœur en poussant de grands cris. Bien plus tard, dans le prophète Osée, nous lisons dans cette parabole que Dieu raconte sur Israël qui est devenue l'épouse infidèle, « Je vais la conduire au désert et là, je parlerai à son cœur. » Dieu a accompagné Élie au désert et là, il lui fait entendre par ce murmure doux et léger sa proximité et son amour. Il parle au cœur d'Élie. Il se sent vaincu par la puissance indicible de cette douceur divine. Il y a en Dieu quelque chose par quoi il va opérer le changement radical intérieur. C'est la nouvelle alliance, le changement de celui qui l'écoute. C'est le Dieu de la miséricorde, de la grâce, de la nouvelle alliance incarnée par le serviteur annoncé par Ésaïe. Ésaïe annoncera le serviteur. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Le murmure de l'amour, le murmure doux et léger, doux et léger. Pour Élie, après cette révélation, c'est encore le temps des jugements. La grande régénération viendra plus tard. Retourne donc, Élie, dit Dieu, à ton œuvre préparatoire. Achève-la en y associant ceux qui devront continuer après toi. Et Dieu lui révèle, il y a les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y a le reste fidèle. Et Dieu l'encourage. Et il lui donne aussi la mission pour ceux qui vont venir après lui. Le Dieu du murmure doux et léger. Le Dieu du murmure doux et léger. C'est celui qui parle au cœur, celui qui par sa présence se fait tout proche de celui qui expérimente sa propre faiblesse. La force de l'amour, de la compassion et de la miséricorde de Dieu se révèlent ainsi. Une parole qui parle au plus profond de l'être par la proximité de celui qui la prononce. Une parole qui parle au plus profond de l'être par la proximité de celui qui la prononce. C'est par le Saint-Esprit que Dieu répand son amour dans nos cœurs. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Élie est persuadé. Il médite la parole dans le calme et le silence. Il est bon pour lui de faire le vide, comme celui du désert, de se dépouiller de tout ce qui est contraire pour s'ouvrir pleinement à ce Dieu d'amour qui vient dans le murmure doux et léger. Puissions-nous nous laisser conduire par Dieu jusqu'au rocher d'Horeb et là entendre le murmure de la grâce et de l'amour de notre Dieu dans nos cœurs. Amen.